Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la sixième heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante pour la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit « Appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu cinq. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là. Et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient. » Et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit, « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit, « Que cherches-tu ? » Ou bien, « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant la sacruche, revint à la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Ne serait-il pas le Christ ? Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient, « Rabbi, viens manger !» Mais il répondit, « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois et ce sera la moisson. Et moi, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il demeura 2 jours. Ils y furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons, toi qui veux nous désaltérer par ton eau vive. Seigneur, souffle sur nous ton Saint-Esprit, que ta parole puisse pénétrer dans nos cœurs, qu'elle puisse les enflammer. Chers frères et sœurs, dans l'évangile que nous venons d'entendre, Jésus fait halte près d'un puits. Arrive une Samaritaine et nous découvrons que Jésus a soif. La soif, vous le savez, c'est une bonne chose parce que quand on n'éprouve plus la soif, on n'a plus le désir de boire, on est en danger de déshydratation, on est en danger de mort. Ce qui est vrai au plan biologique, mais aussi au plan affectif et spirituel. Il y a au fond de chacun d'entre nous une soif d'aimer, d'être aimé, d'aimer Dieu et d'être aimé par lui. Le monde nous présente cette soif comme une maladie qu'il faudrait extirper de notre cœur. Il ne faudrait aimer que les choses de cette terre et encore des choses de plus en plus basses. Quand nous cédons à cette tentation, notre âme est en danger de mort. Dis-moi ce que tu aimes et je te dirai si ton âme est vivante. Mais comment se réveillons-nous le désir d'aimer Dieu ? Bien sûr, par la contemplation de la création. Quand nous prenons le temps d'admirer les choses, par l'écoute de la parole de Dieu, par la rencontre avec d'autres chrétiens, mais fondamentalement, ultimement, par la rencontre avec le Christ. Dans l'Évangile, ce qui est étonnant, c'est que Jésus se comporte en amoureux qui cherche à éveiller le cœur d'une femme samaritaine, qui cherche à provoquer en son cœur le désir de l'aimer. C'est très clair dans le texte de Saint Jean. D'abord, ça se passe autour d'un puits, et le puits d'un patriarche, le patriarche Joseph. Or, beaucoup de patriarches, dont Moïse par exemple, sont allés chercher une fiancée au bord d'un puits. C'est là qu'ils l'ont séduit. Chaque parole de Jésus, c'est aussi une invitation à connaître Jésus, mais à l'aimer. Par exemple, quand Jésus demande à boire, encore aujourd'hui, si un homme dit à une femme qu'il ne connaît pas, est-ce que tu serais d'accord qu'on qu'on aille boire un verre ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? On comprend l'étonnement de la Samaritaine et aussi des disciples à leur retour de course. Jésus est en train de faire la cour à une femme et à une Samaritaine. Ça vous étonne peut-être, mais c'est exactement cela. Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme pour nous séduire et pour provoquer en nous l'amour. D'abord parce qu'il nous aime, parce qu'il est vraiment amoureux, mais aussi parce que notre bonheur, c'est de l'aimer. C'est pour ça qu'au début de son exhortation, la joie de l'Évangile, le pape François dit, avant toute chose, j'invite chaque chrétien, en quelque lieu, en quelque situation où il se trouve, à renouveler aujourd'hui même, maintenant, sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ, ou au moins à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, comme la Samaritaine qui s'est laissée rencontrer par Jésus. Chers catéchumènes, vous vous êtes laissés rencontrer par Jésus, attirés par lui. Vous avez commencé à répondre à cet appel du pape de chercher à connaître Jésus. Et dans peu de jours, ce sera le moment de la rencontre la plus importante. Par votre baptême, vous allez être plongé dans la mort et la résurrection du Christ. Vous allez être unis pour toujours au Christ. Vous allez devenir membre du corps du Christ. C'est l'union la plus importante qu'on puisse avoir. Malgré cela, comme nous tous qui savons des choses sur Jésus, qui recevons beaucoup de lui, comme nous tous, nous pouvons courir le risque de perdre le contact avec lui. Bien que nous soyons baptisés, malgré tout ce que le Christ a fait pour nous, nous pouvons laisser s'éteindre le désir de Dieu dans notre cœur. Quand on arrête de chercher à écouter, à mettre en pratique la parole de Jésus, parce qu'on veut vivre comme tout le monde, on commence à perdre le contact avec le Christ. Et peu à peu, il devient un étranger. Notre rencontre, notre communion avec le Christ, ça devient de la piété et de la piété de plus en plus rituelle. De même, si on renonce à témoigner du Christ, si on fait de notre amitié avec le Christ quelque chose d'individuel qui ne concerne pas les autres, l'amour dans notre cœur s'affaiblit. Regardez la Samaritaine, elle était venue en cachette puiser de l'eau. Pourquoi? Parce qu'elle avait eu 5 maris, qu'elle vivait avec quelqu'un qui n'était pas son mari. Alors, par discrétion, elle avait choisi de venir à l'heure la plus chaude, quand personne ne vient puiser de l'eau, pour ne rencontrer personne. Et pourtant, voilà que, après avoir rencontré Jésus, elle repart au village, annoncer à tous qu'elle a rencontré quelqu'un qui lui a dit tout ce qu'elle a fait et qui pourrait être le Messie. Le baptisé n'est pas chargé de convaincre les autres. Il est chargé d'imiter la Samaritaine, de dire aux autres, voilà ce que je vis avec Jésus. Tu devrais t'intéresser à lui, aller le voir, lui parler. Voilà ce qu'a provoqué en mon cœur son pardon. Tu devrais essayer de le rencontrer toi aussi. Si un feu habite le cœur de cette femme, c'est qu'elle a d'abord accepté que Jésus lui montre son péché, sa misère. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Et elle accueillit son pardon. Normalement, quand il n'y a pas de scrutin à la messe, c'est l'évangile du figuier stérile qui est médité. Vous connaissez cette histoire ? Un figuier qui ne porte pas de fruits, que le maître veut couper et que le jardinier propose d'attendre, propose de bêcher la terre autour du figuier et de mettre du fumier. Le jardinier dit que s'il peut bêcher, s'il peut mettre du fumier, il peut y avoir du fruit. Qu'est-ce que c'est que le fumier ? Le fumier, c'est la décomposition de choses qui ont été vivantes. C'est le symbole de notre péché. Et notre péché peut être utile lorsqu'il est offert à Dieu et pardonné. Jésus s'est fait péché. Il a porté la puanteur du péché sur la croix pour que ce fumier permette de porter du fruit en étant transformé par le pardon du Père. Reconnaître nos fautes, accueillir le pardon de Dieu, c'est la condition pour être habité par le feu de l'amour qui brûlait dans le cœur de la Samaritaine, qui lui faisait vaincre le respect humain. Vous savez ce que c'est que le respect humain ? C'est la peur de ce que vont penser les autres de ce que l'on fait. Ah, si je dis que je vais à la messe, qu'est-ce qui va m'arriver ? Quelque chose d'absolument épouvantable. Les autres vont le savoir. Ça s'appelle le respect humain. Aujourd'hui, le démon est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop content. Le démon, il est à l'aise. Imaginez, il a réussi à convaincre des millions et des millions de baptisés que le péché n'existait pas, que n'existaient que des erreurs de parcours, que le sacrement de la réconciliation, ce n'était qu'une chose inutile pour ceux qui sont un petit peu trop, qui se sentent un peu trop culpabilisés. Pourtant, la conséquence, quand on ne reconnaît plus son péché, qu'on ne s'approche plus du sacrement, c'est qu'on manque de force pour vivre l'Évangile. Et quand on s'aperçoit que nos actes ne sont plus selon l'Évangile, alors on s'éloigne de Dieu. Mais le contraire est vrai. Quand un chrétien prend la décision de se confesser régulièrement, au bout de quelques mois, il se rend compte que des choses ont changé dans sa vie. Il porte des fruits de paix et de joie. Il commence à avoir faim de l'Eucharistie. Il sent le besoin de s'approcher des autres. Il commence à avoir besoin aussi de parler aux autres de Dieu. Il devient évangélisateur. Le sacrement de la réconciliation, c'est, on pourrait dire, comme un nouveau baptême. Le jour de votre baptême, en étant plongé dans la mort du Christ, cher catéchumène, vous allez recevoir le pardon de tous vos péchés. Mais par le sacrement de réconciliation, vous pouvez comme revivre votre baptême chaque fois que vous vous approcherez du Père pour demander son pardon. Alors, quels petits pas pouvons-nous faire cette semaine pour marcher vers la sainteté, pour nous préparer à Pâques, quand nous allons, avec les catéchumènes, renouveler les engagements de notre baptême? Le premier petit pas, c'est un pas qui n'est pas facile. Enfin, s'il est facile, mais il n'est pas agréable. Regardez en face notre vie pour découvrir quel est le péché que je dois transformer en fumier pour que je puisse être davantage vivant David du Christ. Est-ce le mensonge auquel je dois dire un non définitif? Est-ce le désir de vengeance? Est-ce le vol? Est-ce l'infidélité? Est-ce des manques de charité? Est-ce un doute que j'entretiens par rapport à Dieu? Est-ce le manque de prière?
Est-ce l'avarice? Est-ce l'ingratitude? Est-ce la jalousie? Est-ce la convoitise? Est-ce le refus de pardonner? Est-ce des pensées d'orgueil que j'entretiens en me comparant aux autres? Je ne vais pas tous les énumérer, mais chacun de ces péchés peut devenir quelque chose de positif, de l'engrais, une source de grâce et d'élan intérieur, à condition que je le reconnaisse, que je le confie à Dieu et que je me laisse pardonner. On peut donner beaucoup de choses à Dieu. Tant qu'on n'a pas donné son péché, on n'a rien donné. Et puis, le deuxième petit pas, c'est de redire à Jésus, « Je te donne la clé de mon cœur, révèle-toi à moi, que je devienne ton témoin, comme la Samaritaine qui t'a annoncé dès qu'elle t'a rencontré. Fais, Seigneur, que je t'aime chaque jour un peu plus. » Amen.